Je vais céder la parole donc maintenant à Bernard Pelker, ce sera le dernier exposé, qui va nous parler, donc qui est directeur des relations extérieures du CERN, et qui va nous parler des accélérateurs du CERN. Alors là, c'est la très big science, et qui va peut-être même nous dire comment on montre concrètement alors le boson de Higgs. Tu m'as dit que l'exposition avait été ouverte à Londres il y a 2 jours.
Oui, c'est l'exposition. Il était référent. Effectivement, a été inauguré il y a 2 jours. Donc, je ne suis pas sûr qu'on parle là de patrimoine, mais on parle de diffusion de la science. Alors, peut-être sur cette première image, pour faire la liaison avec ce qui vient d'être présenté, effectivement, on parle de très gros instruments qui sont parfois leur propre prototype. Donc, il n'y en a pas d'autres. Généralement, c'est la règle, qui sont très complexes. Et qui sont également formés d'une multiplicité à la fois d'éléments différents, mais aussi de contributions internationales. On va le voir. Juste pour l'anecdote ici, vous pouvez voir en partie basse, dans le cercle, une personne. Et donc, entre le haut et le bas de l'image, vous avez 40 mètres. Hein, donc, et la masse du bébé, c'est une tour Eiffel. C'est l'ordre de grandeur, 7500 tonnes. Voilà. Alors, peut-être quand même pour recentrer le problème que l'on peut rencontrer avec les objets patrimoniaux, rappeler que le CERN naît dans l'après-guerre d'une volonté internationale avec des gens comme De Broglie, qui, très visionnaire, dans une conférence d'ailleurs en Suisse, à Lausanne, va imaginer que l'avenir de nos sociétés passe par un développement scientifique et technologique aussi. Et il y avait eu tout un discours qui a déclenché d'ailleurs cette mise en commun de ressources pour créer le CERN. Et 12 pays vont s'associer au départ. Et il faut imaginer la performance que cela a été dans l'après-guerre, avec toutes les blessures qu'il y avait eues. Et il y a vraiment eu un effort des physiciens pour mettre en place cela. Aujourd'hui, donc, il y a 20 États membres. Le laboratoire est en train de changer à grande vitesse dans ces 3-4 dernières années, puisque le statut strictement européen est en train d'être transgressé et il devient un laboratoire mondial aujourd'hui, avec d'énormes contributions. Vous voyez ici la répartition géographique des pays. Malheureusement, il manque encore des pays sur l'Afrique, mais ça vient, ça évolue. On est en train de beaucoup travailler dans ce sens-là. Alors, pour rappeler le contexte encore une fois, il y a des missions dans un laboratoire comme cela, et vous imaginez bien que les missions, ce n'est pas la préservation du patrimoine. Hein. C'est d'abord et avant tout la recherche, donc repousser les frontières de la connaissance dans le domaine infiniment petit, mais aujourd'hui c'est intimement connecté à l'infiniment grand. C'est développer des technologies pour mener à bien cette recherche. C'est là que l'on va retrouver nos instruments. C'est également la formation. Et là, on pourra peut-être trouver des biais pour communiquer et donc faire le lien avec la sauvegarde des objets. Et puis, c'est rassembler des personnes de différentes nations et de cultures. Et là, c'est une toute autre mission. Alors, pour mener à bien ce travail, je vous ai parlé d'accélérateurs et de détecteurs. Effectivement, il y a toute une logique d'accélérateur au CERN que vous voyez schématiquement présentée ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les dates des premiers accélérateurs, mais on est en 59, le laboratoire a été fondé en 54. Donc, vous voyez que très rapidement, on a une chaîne d'accélérateurs qui est toujours en usage. C'est-à-dire on utilise toujours le proton synchrotron qui date des années 51. Bien sûr, il y a eu des mises à jour, etc. Mais il y a toute une cohérence. Ce n'est pas du patrimoine encore, c'est des objets en train de travailler. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, cette panoplie, cette chaîne d'accélérateurs est bien sûr utilisée, associée à 4 détecteurs principaux, et c'est ce qui fait la recherche dont on parle ces derniers jours. Hein, les résultats sont acquis avec cette chaîne d'accélérateurs et les détecteurs associés. Je rappelle au passage que le plus grand accélérateur, le LHC, c'est quand même 27 km. À 100 mètres sous terre, certes, il n'impacte pas trop le paysage, mais c'est 27 km. Alors, il faut faire la comparaison avec le premier cyclotron, 1930, Lawrence à Berkeley, qui propose ça. Ça tient dans la paume de la main. C'est le premier accélérateur. 80 ans plus tard, c'est 27 km. Donc on voit comment la technologie associée à cela a évolué. Et au passage, donc, dans l'histoire du CERN, il y a tout un ensemble d'outils, celui du musée des confluences, et dans une pièce, on n'a pas la place, on l'a mis dehors, d'accord, ça oblige à un certain entretien, mais on a quelques objets comme cela qui ont été sauvés au départ sans une politique particulière, mais simplement par une attention portée par les physiciens et d'autres personnes autour. Cette chambre à bulles qui date des années 60, c'est l'équipe d'Orsay qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Ce que vous voyez, c'est un élément. Et c'est toujours la même chose. Vous avez une pièce qui est dans le jardin là, du microcosme au CERN. Mais regardez, cette pièce était là-dedans, dans ce... en Suisse, on dirait dans ce chenil, n'est-ce pas ? Dans ce bazar, ce fatras que l'on a ici. Et vous avez toutes les pièces qui sont autour, bien sûr, ont été dispersées, ont été cédées à la ferraille, parce qu'on ne pouvait pas garder toutes ces choses-là. Ici aussi, vous avez d'autres objets, des cavités accélératrices du LEP, de l'accélérateur précédent. Alors ça, il y en avait pas mal. On en a gardé une ou deux, les autres ont été prêtés et les autres jetés. Hein. Là, c'est la plus grosse chambre à bulles européenne qui existait à l'époque. Encore une fois, la partie où de l'hydrogène était sous pression, on a un piston. Les physiciens jouaient avec des choses un peu dangereuses à l'époque, manipulant de l'hydrogène comme cela. Mais regardez bien cette pièce qui est ici et regardez dans quel contexte elle était de nouveau. Et certains parlaient tout à l'heure de la liaison entre recherche et industrie. Là, vous avez les étiquettes de Creuse-Loire ou d'autres qui avaient été intimement associées à la construction de ces pièces énormes. Donc, ce patrimoine-là, on en a récupéré quelques parties, mais il est bien sûr impossible de garder la totalité des objets. Je ne parle même pas des pièces informatiques, qui ne sont, je pense, ni chez Aconit, ni chez le musée Bolo. Je pense que c'est parti, on ne sait trop où. Et puis, les chambres de détection, à une époque où il n'y avait ni informatique, les résultats des expériences de chambres à bulles étaient le produit de photographies. Et ensuite, il y avait des tables à scan, comme cela, où des personnes, on a eu au CERN jusqu'à 400 personnes, qui décodaient les clichés informatiques pour extraire la science quand on pense à la technologie mise en œuvre aujourd'hui et aux 600 millions de collisions à la seconde, c'est bien sûr plus à l'échelle humaine ce genre de choses. Au passage, quelques clichés émouvants avec les chambres à fil de Charpak. Vous avez un Charpak jeune ici, avant qu'il obtienne son prix Nobel. Il travaillait sur de nouvelles technologies et là, nous avons préservé pas mal de ces chambres à fil prototypes de l'époque. On ne peut pas passer... là-dessus aussi, je pense que ça vous ferait plaisir ces deux objets. Donc on a ça, c'est la machine originale avec Tim Berners-Lee qui est à côté, puisque le web a été développé par cette personne pour permettre au départ aux physiciens de dialoguer entre eux. Et aujourd'hui, donc cette machine, au passage, l'année prochaine, on fête les 25 ans du web. Vous avez tout ça dans les ordinateurs aujourd'hui et dans les smartphones, mais ça n'a que 25 ans. C'est quand même relativement récent. Alors, bien sûr, il y a je viens d'en parler un peu, il y a les hommes et les femmes qui sont associés à cela, des prix Nobel récents avec le X, mais également Charpak, Rubbia, van der Meer. Cette recherche, ces instruments patrimoniaux, sont associés à des chercheurs, à des avancées importantes au niveau de la recherche. Et c'est tout ce souvenir, toute cette mémoire que l'on essaie aujourd'hui de conserver, non seulement les gros instruments, mais tous les petits instruments qui sont associés, dont vous avez quelques détails ici. Alors, que faire ? Que faire ? Eh bien, c'est pour nous déjà, c'est identifier, protéger et stocker quand on le peut. Ce n'est pas toujours facile. C'est conservé, et je mets bien ou non, hein, c'est parce que je vous cite un simple exemple. Avant le LHC dans le tunnel, il y avait le LEP, l'accélérateur électron-anti-électron. On a sorti 35 000 tonnes du tunnel. Bon, 35 000 tonnes, vous imaginez bien que la majeure partie est allée à la ferraille. On ne pouvait pas garder ça, on a gardé quelques objets. Donc, inventorier, ça c'est un processus que l'on met en place maintenant. On a eu le plaisir de discuter avec Daniel Toulouse et Catherine Cuenca depuis quelques années maintenant là-dessus. Mais, on a regardé un petit peu ce qu'il était possible de faire. On est en progrès, on va dire, là-dessus. Notre problème aussi, c'est le stockage. On a parfois quelques très grosses pièces. On hésite encore, hein, mais un jour ou l'autre, s'il y a un problème de place, on risque d'être amené à faire des choix parfois un petit peu cruels. Restaurer, là on ne s'est pas trop attaqué à ça pour le moment, mais exposer ou développer. Et par exemple, la copie du petit accélérateur de Lorenz est intégrée aujourd'hui dans notre exposition permanente qui est au rez-de-chaussée du Globe pour ceux qui connaissent, de la même façon que le premier serveur web de Tim Berners-Lee, l'original, est situé dans cette scénographie un peu particulière faite de sphères que nous avons dans cette exposition permanente au CERN. Donc on essaye de valoriser quelques objets. Quand on parlait tout à l'heure du dialogue avec les publics au niveau de l'informatique, il est évident qu'un serveur web, aujourd'hui, même si c'est le premier, ça parle encore aux jeunes générations. Les plus jeunes sont nés avec le web, pour eux c'est la langue de début, hein, le web, mais voir la première machine déclenche encore un petit peu d'émotion. Je ne sais pas ce que ça donnera dans 20 ans, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore le cas. Alors bien sûr, le reste, il nous faut stocker. On essaye de dégager des espaces. Et quand on est dans un processus compétitif avec la recherche et la technologie, il faut se battre parfois pour dégager un hall complet et essayer d'installer. Là, vous n'avez qu'une partie d'un hall qui est assez grand, que l'on a essayé de bloquer complètement avec approbation de la hiérarchie, de telle sorte qu'on ait une structure à peu près pérenne. Alors, quelle mémoire et quel devenir pour ces très gros instruments? Plutôt que de détailler cela, je vais laisser la place peut-être à la discussion, je voudrais juste vous citer un exemple sur lequel nous travaillons depuis peu de temps finalement, depuis 2 ans et demi maintenant. C'est cette machine, c'est un synchrocyclotron, c'est le premier accélérateur à avoir été construit au CERN avant le proton. Il a eu une vie, j'ai envie de dire, en parallèle des autres accélérateurs. Il fallait démarrer le CERN et on a démarré avec cette machine. Cette machine accompagne vraiment le démarrage du laboratoire. Vous voyez les premiers chantiers de l'époque, il n'y a quasiment rien. On construit déjà le proton synchrotron et dans le bâtiment qui est juste ici, on va développer cet accélérateur. Aujourd'hui, le paysage est gigantesque, mais à l'époque, c'était ce bâtiment dans lequel on allait mettre ce premier accélérateur. Vous voyez, on est en 55. Et là aussi, on a de belles histoires à raconter. Le long du lac Léman, on a eu les premières expositions itinérantes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ces bobines qui sont promenées, passant parfois, on a des images fantastiques des émissions de la télévision suisse romande où on voit les aimants passer à 2-3 cm des façades des maisons avec les gens qui se demandaient ce qui arrivait, ce qui passait dans les rues. Mais voilà, toute cette histoire, on essaye de la garder. Et nos archives, vous le voyez, sont également dans les médias, les médias télévisés de l'époque, qu'ils soient en France, en Suisse, à la BBC ou ailleurs, nous avons conservé quelques-unes de ces images. Vous voyez comment on a des photos qui sont pratiquement des photos que l'on mettrait. Cela. Alors ce premier accélérateur aussi, histoire que vous devez raconter vous-même, c'est pour un accélérateur qui est né la même année que le Spoutnik, avant la communauté européenne, avec des avancées que vous voyez diverses. Le contexte de l'époque est un. Et c'est l'histoire que l'on veut raconter autour de cette machine. Aujourd'hui, cette machine est dans un bâtiment avec de la recherche qui est autour. Pour ceux qui connaissent, c'est les gens de l'expérience Alice qui sont autour. Vous avez un bâtiment qui a été exploité de 1957 jusqu'à 1990, fermé ensuite, enfin fermé à moitié, parce que les physiciens ayant besoin de place et horreur du vide, je suppose, ont rempli les alentours de cette machine, ont laissé le bâtiment s'abîmer. Il faut dire que c'est un bloc de béton, des gros blocs de béton, et vous voyez comment ils ont rempli l'espace avec tout ce qui les embêtait en gros. Donc on se retrouve avec ce bâtiment, et là ce qui est intéressant, c'est une volonté de la hiérarchie du CERN, du directeur général, en disant bon, on a un gros engin. Quand je dis gros engin, c'est 2500 tonnes. Donc on a un gros objet qui est là, on a un objet de référence qui fait partie non seulement du patrimoine du CERN mais du patrimoine international. Qu'est-ce qu'on fait? est-ce qu'on se donne les moyens soit de fermer le bâtiment, parce que le déplacer, le démanteler, ça coûte une fortune, et donc on ne va pas mettre l'argent là-dedans, notre argent on le met sous terre, comme on dit, on ne le met pas là. Et donc il est décidé de reconfigurer un petit peu tout cela et de regarder dans quelles conditions on peut le réouvrir au public. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va nettoyer l'espace et comme il faut faire quand même un aménagement pour pouvoir accueillir du public, en termes aujourd'hui, pour même si c'est un espace dans lequel on ne va pas laisser entrer le public en self-service, on va y aller par groupe avec des guides, on est quand même soumis à l'équivalent des normes ERP ou équivalent pour. Donc il nous faut faire des aménagements en termes de climatisation, de ventilation, en termes, à l'époque on a des peintures au plomb sur cet aimant, donc il faut faire les traitements adaptés ou des choses comme ça. Et n'oublions pas non plus que c'est un accélérateur qui accélérait des protons qui ont tapé sur le mur, et donc le mur a une légère activité. Donc une grosse question au départ. On veut l'ouvrir au public, mais dans quelles circonstances, etc. Et donc on va faire d'abord un travail de nettoyage en récupérant des objets. Vous voyez ces objets qui sont ici, sur la partie droite, ce sont des clés de serrage de l'aimant qui font 90 kilos. Donc ça, c'était intéressant de montrer comment on travaillait. On a toute une série d'objets, d'alerte, d'informations, etc., que l'on a mis de côté et que l'on va associer à l'intérieur. Et simultanément, on a réfléchi, donc ça c'est un schéma d'éléments, comment on allait le présenter, sachant qu'il avait été chez intermédiaire, et donc l'idée était de, là et toujours, d'enlever des planchers pour montrer la dimension globale de l'objet, donc le mettre en scène sans trop toucher à la machine elle-même, et d'ailleurs la machine on y a pas du tout touché, on a juste fait quelques petits nettoyages. C'est tout ce qu'on a fait. Alors simultanément, on a fait un concours de scénographie et on a travaillé avec une équipe qui est Atelier Bruckner en Allemagne pour essayer d'approcher une mise en valeur de cette machine sans envahir en quelque sorte trop le bâtiment lui-même. Et donc le choix qui a été fait, c'est une sorte de T que vous voyez ici, qui est une simple passerelle en acier inox, un grillage en acier inox, avec des parois latérales en verre, uniquement pour rentrer dans cet espace. Et l'autre chose, et c'est pas fini encore, on est en train d'y travailler, c'est d'essayer de travailler sur la machine elle-même avec un système de 3D mapping, donc uniquement de projection, comme sur les lumières de Lyon d'ailleurs, c'est-à-dire de déstructurer la machine et de pouvoir l'ouvrir en quelque sorte sans la toucher. Hein. Donc c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et les résultats actuellement, donc on a reconstruit un petit peu la façade du bâtiment pour permettre une extension et permettre un tunnel, un petit sas muséographique permettant aux personnes de remonter dans le temps jusqu'à 1957. L'intérieur aujourd'hui pris de façon avec un grand angle, elles sont en place. Le simple design qui a été mis, on ne mettra rien de plus, le reste sera traité au niveau audiovisuel. Et bien sûr, tout cela est prévu pour être inauguré. Vous voyez ce petit logo, le CERN fête l'année prochaine, c'est 60 ans. Donc c'est 60 ans. Et la machine va être à ce moment-là. Et on aura quelques collaborations. Le European Physical Society est très intéressé. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça intéresse, je pense, au niveau du patrimoine, les uns et les autres ici, au niveau de la physique. L'EPS labellise des gros objets, essaye d'attirer l'attention sur des gros objets patrimoniaux au niveau 1. Et bien sûr, ils sont très intéressés par cette machine. Par rapport à ça, mais essentiellement pour accompagner et donner une meilleure lisibilité à cela. Voilà, donc j'ai envie de vous inviter l'année prochaine pour l'inauguration et de vous remercier pour votre écoute. Voilà, merci.